Gloire à notre Dieu. Nous disons merci à notre Dieu, notre Père, qui, dans sa bonté, dans sa fidélité, nous garde et nous permet d'être là encore ce matin. Et nous saluons nos bien-aimés qui nous suivent au loin. C'est pour nous une grande joie de vous savoir avec nous. Nous avons chanté, nous avons dansé tout à l'heure. Et moi, la parenthèse que j'aimerais faire, le temps de louange, c'est vraiment le temps de notre réunion que j'aime le plus. C'est un temps que j'aime beaucoup. Lorsque je viens en réunion, c'est d'abord pour le temps de louange. Amen. Pourquoi cela, bien-aimé? Parce que le Seigneur, on l'a dit tout à l'heure, il a fait tant de choses pour nous. Il a fait tant de choses pour nous. Et quelquefois, nous qui sommes des humains, moi aussi, hein, il m'arrive d'oublier ces choses-là. Et c'est ce qui peut jouer en notre défaveur, ce qui peut jouer sur notre foi. Notre partage de ce matin, nous l'avons intitulé « Quel accueil pour le Seigneur ?» Et pour commencer, nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 7. Luc chapitre 7, à partir du verset 36. C'est une histoire qui est très connue. Nous disons, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se mit derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfums. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Nous nous arrêtons là un instant. Voilà cette situation. Nous savons dans la Bible, Jésus à plusieurs reprises est entré dans certaines maisons. Au moins 10 maisons, Jésus est entré. Et nous voyons ce monsieur, un pharisien qui connaît la parole. Il va inviter Jésus chez lui. Quelle grâce! Et n'oublions pas que les pharisiens n'aimaient pas Jésus à l'époque. Ils cherchaient à chaque fois de le piéger, ils le guettaient. Et là, ils ont invité Jésus. Jésus, dans sa grâce, dans sa bonté, il n'a pas dit non. Même s'il sait que ces personnes-là ne l'aiment pas, vont chercher une occasion de chute, vont essayer de le piéger, Jésus vient. Donc la première parenthèse que nous faisons, c'est quoi? C'est que notre Seigneur est toujours disponible pour nous. Pour tous les humains, Jésus n'a jamais répondu, n'a jamais refusé à un appel. À chaque fois dans la parole, lorsque nous voyons qu'on demande à Jésus son aide, il est toujours intervenu. Et quel merveilleux sauveur bien-aimé. Et on voit même cette personne qui était imbue de sa personne. Dieu ne l'a pas rejeté non plus. Il a accepté la situation et il est venu. Et que s'est-il passé? Il y a trois personnages ici. Hein. Il y a bien entendu Jésus, cette femme pécheresse et le pharisien, bien entendu, avec ses convives. Quelle attitude? J'ai bien dit, le titre de notre exhortation, c'est « Quel accueil réservons-nous à Jésus ?» Pourquoi il a invité Jésus? Pourquoi il l'a invité? Et pourquoi il a accepté que cette femme, qui est une pécheresse, entre dans sa maison? On pourrait même être tenté de penser que ce monsieur, il a laissé exprès que cette femme entre chez lui. Parce qu'en fait, il dit cette femme, c'est une pécheresse. Normalement, généralement, on ne traîne pas à côté de ces personnes-là. Et on a vu le jugement qu'il a adressé. Il a accepté. L'entrée de cette femme, elle est venue. Et quelle a été la réaction de ce pharisien? Nous allons voir en fait la réaction de chaque personne. Il va dire en lui-même que ce Jésus-là, s'il était vraiment un prophète, il aurait su que cette femme est une pécheresse. C'est-à-dire qu'il ne devrait même pas traiter avec elle. Le comportement de Simon, cela peut nous gagner, nous tous, bien-aimés. Et pourquoi? Parce que nous pouvons avoir une certaine marche avec le Seigneur. Peut-être que nous ne commettons pas de péché. Nous nous sentons bien. Je n'ai rien à me reprocher. Tu peux te dire ça. Nous pouvons nous dire ça. Et lorsque nous sommes en présence de certaines personnes, nous voyons le Seigneur agir dans la vie de certaines personnes, on va être offusqué. On va dire, mais ce n'est pas normal. Moi qui suis correct, j'attends que Jésus, parce qu'il attendait quelque chose de la part de ce Jésus-là, qu'il n'aime pas, qu'il n'apprécie pas. Il attendait quelque chose. Il voit que Jésus ne va pas l'honorer comme il l'entend. Il va s'élever au-dessus de cette femme. Non seulement il va adresser deux jugements vis-à-vis de Jésus et vis-à-vis de cette femme-là. La parenthèse, c'est quoi, bien-aimé? Réalisons la grâce que le Seigneur nous a accordée. Nous tous, nous étions pécheurs. Le bien-aimé l'a rappelé tout à l'heure. Nous tous, nous étions pécheurs, mauvais. Nous étions adonnés à plein de choses et le Seigneur, dans sa grâce, nous a visités. Est-ce que c'est par notre effort que nous sommes là ce matin? Qu'avons-nous fait pour être là, pour nous appeler chrétiens, chrétiennes? Nous n'avons rien fait, bien-aimés. Nous avons reçu la grâce de notre Seigneur et nous ne devons pas juger ceux qui traînent dans des situations difficiles. Le Seigneur veut attirer notre regard sur l'état de notre cœur parce que le monsieur, il va le dire en lui-même et le Seigneur va découvrir l'état de son cœur. Mais en face de cela, on va voir cette pécheresse. Quelle attitude a-t-elle eue? Elle va venir, elle ne va pas demander à Jésus, pardonne-moi. Elle ne va rien demander, bien-aimée. Elle ne fait que répandre ce qu'elle a dans le fond de son cœur. Donc la deuxième chose, c'est quoi, bien-aimée? Peut-être que tu ne connais pas encore le Seigneur, tu ne marches pas encore avec le Seigneur, mais n'oublie pas ce que le Seigneur a fait à cette femme. Le Seigneur ne l'a pas rejetée. Donc toi non plus, ne pense pas que Dieu te rejette. Même si tes péchés dépassent, tu as l'impression que tes péchés sont énormes. N'oublie pas que le Seigneur t'accorde la grâce de l'approcher encore ce matin. Nous avons chanté tout à l'heure et nous savons que Dieu est toujours parmi nous, bien-aimé. Il est là et il t'ouvre son cœur. Notre Dieu est un Dieu de grâce et d'amour. Il veut que tu arrives à la repentance et qu'il veut que tu le touches. Amen. Il veut que tu le touches encore ce matin et nous voulons insister sur le fait que comme la grâce est là, profitons de cette grâce-là. Ne remettons pas au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et cette femme va faire une grande démonstration de l'amour l'amour de son cœur vis-à-vis de notre Seigneur. Qu'est-ce qu'elle a fait en particulier? Nous voyons qu'elle va verser ses larmes. Elle va répandre le parfum et elle va vraiment s'humilier devant notre Dieu. Et la Bible, il est dit aussi ici qu'elle n'est pas venue devant, elle s'est tenue derrière. C'est-à-dire qu'elle manifeste à notre Seigneur son immense culpabilité. Elle dit non, mais je ne suis pas digne de me tenir devant ta face. Je ne suis pas digne de te voir face à face. Et je baisse la tête. Et c'est l'attitude que le Seigneur demande à chacun d'entre nous ce matin. Le Seigneur veut que, lorsque nous l'approchions, que nous prenions conscience de notre état. Ce n'est pas par notre justice que nous allons atteindre notre Seigneur. Impossible. Ce n'est que par sa grâce. Et sa grâce est disponible pour chacun d'entre nous ce matin. Elle a fait fi, cette dame-là, elle a fait fi de toutes les personnes qui étaient là, hein. On a bien vu qu'elle est entrée dans la maison. Quel était son objectif? C'est juste Jésus. Alors qu'il y avait du monde tout autour. Donc n'oublie pas, tu es là ce matin, Jésus veut te rencontrer toi individuellement. Jésus voudrait que son cœur atteigne le tien. C'est sa volonté, bien-aimé. Ne l'oublie pas. C'est vrai que nous constituons un effectif, mais sachons-le, que l'action de Dieu est d'abord individuelle et c'est ce qu'il désire pour toi ce matin. Peut-être que tu as le cœur lourd. Les soucis sont là. Bien-aimés, nous avons tous des problèmes. des préoccupations, des sujets pour lesquels nous crions à Dieu depuis des années. Nous crions à Dieu pour lesquels nous n'avons pas de réponse. Comme cette femme-là. C'est une femme qui est méprisée dans la société. Certainement qu'elle a reçu le mépris de ces pharisiens-là. C'est sûr et certain. Mais lorsqu'elle est venue, elle avait vu qu'il y avait le pharisien. En lui, elle ne pouvait pas trouver de grâce. Jésus-Christ, plein de grâce, était là. Et elle s'est répandue, elle a répandu ses larmes. Abaissons-nous devant la grâce de notre Seigneur. Car nous savons que lui seul peut nous consoler. Lui seul peut ôter le fardeau que nous avons sur notre tête. Lui seul peut nous apporter ce que les humains ne veulent pas nous apporter. Je dis bien les humains ne veulent pas. Quelquefois, certaines personnes ont la possibilité, la capacité de nous aider, mais elles ne le font pas. Comme ce pharisien, il aurait pu sortir un verset, encourager cette femme-là, l'emmener, la pousser vers Jésus. Mais il ne l'a pas fait. Donc saisissons la grâce que le Seigneur nous accorde. Et nous continuons la lecture. Au verset 40, il est dit ceci. Jésus prit la parole et lui dit, il parle à Simon. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit. Celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle, elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Amen. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette situation ? On voit bien ce pharisien. Il s'est dit, peut-être qu'il n'a pas de péché, c'est vrai. Et je l'avais dit tout à l'heure au début, quelquefois, lorsqu'on est à l'écart, on s'éloigne du mal, on ne fait pas certaines choses, on se croit fort. Et on méprise la présence du Seigneur qui est à nos côtés. On méprise. Et on va plus loin, mépriser les autres. On va mépriser les autres. On va être dans le jugement, bien-aimé. On va être dans le rejet. On va peut-être pas croiser le chemin des prostituées, ne même pas s'asseoir à côté. Mais on voit la démarche de cette femme. Elle s'est humiliée. Et Jésus... Il y a une remarque que nous pouvons faire, bien-aimés. Jésus a dit ici, il dit au verset 43. Il dit, mais Simon répondit, non, c'est au... Voilà, au verset 44. Il dit, puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme ? Parce que dans un premier temps, il avait dit à Simon, il a dit, j'ai quelque chose à te dire. Jésus aurait pu commencer par faire des reproches à ce pharisien-là. Parce qu'il avait lu ce qui était dans son cœur. Mais ce que nous pouvons retenir, que Jésus, mais malgré notre orgueil que nous pouvons manifester, comme l'a manifesté ce pharisien-là, lorsqu'il va nous reprendre, ce n'est pas pour nous frapper, ce n'est pas pour nous faire du mal. Il va avec bienveillance nous reprendre. Nous voyons quelquefois des humains, lorsque nous nous trompons, comment ils nous reprennent. Nous avons vu la réaction de Jésus. Comment Jésus a parlé à ce monsieur-là, qui était rempli de son honneur, de sa dignité, et qui en plus avait méprisé les codes de l'époque, de comment on devait recevoir les gens à l'époque. Jésus avait donné ces éléments-là. Et la femme qui était entrée dans sa maison avait vu que Jésus n'était pas reçu comme il se devait. Et elle savait que Jésus a été méprisé. Elle va faire exactement ce que Simon va faire. Donc en réalité, bien-aimés, nous pouvons être surpris par l'attitude des personnes que nous méprisons, bien-aimés, de notre hauteur, de la connaissance que nous avons. Nous pouvons être surpris par des personnes qui sont faibles, qui, entre guillemets, dans la société, sont viles, sont méprisées. Nous pouvons être surpris. Et c'est l'attitude de ces personnes-là que le Seigneur va agréer. Et c'est ce que le Seigneur a déclaré à cet homme. Le Seigneur attend de toi, de moi, de chacun d'entre nous, que nous prenions conscience d'abord de notre passé. J'avais parlé tout à l'heure de la louange. C'est un temps que nous aimons tous. Mais on voit, c'est aussi une forme de louange. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que lorsque tu as conscience de la grâce que le Seigneur t'a accordée, lorsque tu te souviens de qui tu étais, de tout le chemin parcouru et de ce que le Seigneur a fait de toi aujourd'hui, tu ne peux que le louer en posant des gestes forts comme cette dame vient de le poser. Et c'est un encouragement pour chacun d'entre nous. Peut-être qu'à la fin, nous prierons pour cela, que le Seigneur nous ouvre les yeux sur notre passé. Il ne s'agit pas de retrouver la culpabilité du passé. Loin de là, bien-aimés, ce n'est pas cela. Nous sommes pardonnés, nous sommes délivrés, nous sommes sauvés et nous savons que notre héritage nous attend. Mais pour louer le Seigneur comme il se doit, nous avons besoin de nous souvenir du chemin parcouru avant de l'avoir rencontré. Nous avons besoin de nous souvenir de ça en permanence. Et si nous avons ça à l'esprit, notre louange sera vraiment éclatante. Nous ne manquerons pas de sujet de louange et d'adoration. Ce monsieur, il aime peu. C'est ce que Jésus a dit, hein? Il aime peu parce qu'il estime qu'il n'a pas de péché, ou bien qu'il a juste un peu de péché, c'est tout. Et nous savons, Jésus a dit, il a remis la dette à eux deux. Lui n'avait pas conscience de son péché. Lui se pensait clair, propre, sans péché. Mais Jésus a dit, en réalité, lui aussi, toi aussi, tu as un péché. Tu n'as pas de quoi me payer cette dette-là. C'est ce que Jésus lui a dit. Hein? Il a remis la dette à tous les deux. Et on voit cette personne qui va agir de cette manière-là. Cette interpellation, je le rappelle, bien-aimé, cela nous concerne tous. Nous pouvons aussi agir comme Simon. Nous pouvons aussi nous dire, non, mais moi, je ne faisais rien de grave. Et aujourd'hui, moi, je suis bien. Non. Notre justice n'est pas celle que Dieu attend. Dieu attend sa justice à lui. Et nous savons que c'est sa justice qui est venue à nous. Nous n'avons rien fait pour cela. Et nous devons louer et adorer notre Dieu de tout notre cœur. Et nous voyons bien la suite de l'histoire. On nous dit, au verset 50, « Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. » La véritable paix, on va la réaliser lorsque nous avons véritablement conscience du pardon de notre péché. Conscience. Ce monsieur, il n'avait pas la conscience de son péché. Donc il n'était pas en paix. Lui, il pensait être en paix. Hein. En réalité, oui, il y a des personnes qui dans le monde se disent « Non, mais moi je suis bien, je n'ai pas de problème. Je ne mens pas, je ne fais de mal à personne. Je gagne bien ma vie. Tout fonctionne. » Et qui se disent pas coupable, elle ne s'estime pas coupable. Mais la réalité pour nous, les chrétiens, nous qui savons que notre justice est nulle devant Dieu, et c'est Dieu qui nous a transmis sa justice, nous pouvons être en mesure de le louer, de le chanter de tout notre cœur. Nous allons prendre un autre passage, c'est dans 2 Samuel chapitre 6. Tout à l'heure, nous avons chanté « David est un grand roi, il aimait bien danser ». Et de Samuel chapitre 6, à partir du verset 12. Donc c'est l'histoire de l'arche qui était transportée après qu'on l'ait récupérée qu'on l'a récupéré. Il y a eu cet épisode avec Uzza qui a été foudroyé. Et ce qui s'est passé, David avait transmis l'arche dans la maison d'Obed-Edom. C'est ce que nous allons découvrir. Verset 12. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route. Et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Verset 14. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était saint d'un éphod. Ce verset, je l'aime beaucoup. Bien-aimés, n'oublions pas que David, à l'époque, c'était un roi, un grand roi. Et qu'est-ce qu'il a fait? On nous dit qu'il dansait. Il dansait comment? Il ne se contrôlait pas. Hein? Il dansait de toutes ses forces. De toutes ses forces. Peut-être qu'il avait des enfants à cette époque-là qui devaient l'observer. On a dit, ah, mais c'est mon père qui est en train de faire ça. Oui, mais il n'était pas dans le contrôle, bien-aimé. Donc là, c'est une parenthèse aussi. Lorsque nous louons le Seigneur, bien-aimé, ne regardons pas à gauche, à droite. Amen. Ne regardons pas. Regardons à notre Dieu, contemplons sa magnificence, sa gloire, sa bonté, son amour pour nous, tout ce qu'il a fait, l'œuvre de la croix, tout le chemin parcouru. Restons connectés à cela. Et nous allons même oublier, si nous sommes en costume ou en quoi, on va oublier tout cela, bien-aimés. On va oublier notre dignité. Et c'est ce que faisait David. On nous dit, il dansait de toute sa force. Peut-être qu'ils étaient à l'extérieur. Et nous savons qu'il n'y avait pas de bitume à l'époque. Peut-être qu'il y avait plein de poussière qui faisait lever, ils dansaient tranquillement. Et la suite, bien-aimé. Lisons la suite. On nous dit, au verset 15, « David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. » Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel. Elle le méprisa dans son cœur. Michal, c'est la femme de David. Hein? Elle le méprisa dans son cœur. Voici l'attitude de cette femme. Et j'avais dit au début que notre exhortation, c'est quel accueil faisons-nous avec le Seigneur? Nous voyons cette femme. Elle n'a pas compris David. Pour elle, elle était attachée à sa dignité, comme les pharisiens à l'époque, qui étaient attachés à leur position dans la société. Il y avait des choses qu'ils ne devaient pas faire. Ils ne devaient pas se mélanger avec les autres. Ils avaient une certaine place dans la société, un respect dans la société, un honneur dans la société. Et c'est ce que cette femme va faire. Son père était roi. Et elle va voir son mari en train de danser de toutes ses forces. On nous dit bien, elle le méprisa. Et ce mépris-là, ça prouve tout simplement qu'elle ne connaît pas Dieu. Elle n'a rien avec le Seigneur. Nous sommes tous d'accord, bien-aimés. Quelqu'un qui connaît Dieu, qui sait ce que Dieu a fait pour lui, qui est conscient de son éternité, de comment Dieu l'a élevé, de tout ce que Dieu lui a donné. Bien-aimés, prions que Dieu nous ouvre les yeux pour que déjà nous saisissions ce qui nous attend au ciel. Si nous voyons la réalité de ce qui nous attend au ciel, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il a dit, mais je vais au ciel, je vais préparer une place pour vous. Là, le Seigneur est en train de préparer une place pour nous, pour toi, pour moi, bien-aimé. Dans Apocalypse, on dit, le Seigneur a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Mais quel honneur, bien-aimé. Est-ce que ce ne serait pas beau que même le restant de notre vie, que nous soyons dans la louange et dans l'adoration, bien-aimé. Et on voit cette femme-là qui n'a pas compris. Elle n'a pas compris son mari. Elle aurait pu peut-être attendre et lui demander, mais pourquoi tu fais ça? Aide-moi à comprendre. Et c'est ce que nous devons faire, bien-aimés. Si nous ne comprenons pas certaines choses, ne jugeons pas très rapidement. Nous avons vu ce pharisien-là, il a jugé. Et c'est après que le Seigneur est venu pour lui dire, « Mais regarde, moi tu ne m'as pas bien accueilli, tu aurais dû m'honorer, tu ne m'as pas honoré, tu m'as méprisé en plus de cela. » Et on voit David qui pose les bons actes. Et qu'est-ce que David va faire? Il ne s'occupe pas. Verset 17, on nous dit, « Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. » Quand David eut achevé d'offrir les sacrifices et les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées, puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes, femmes et à chacun, un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. Maintenant, le verset 20, on dit, David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi, pour le roi d'Israël, de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Amen. Je veux paraître, verset 22, j'aime beaucoup ce verset, il dit, je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. On voit au verset 23, qu'est-ce qui a été dit de cette personne qui n'a pas voulu saisir la grâce de Dieu. On nous dit, elle n'eut pas d'enfant jusqu'à sa mort. Donc le refus de glorifier Dieu, le refus de donner à Dieu ce qui lui est dû, cela peut fermer des portes dans notre vie. Nous qui avons la grâce de connaître le Seigneur, nous qui avons la grâce d'avoir été choisis par notre Dieu, parce que là, Michal, elle avait une position élevée grâce à son mari. Donc c'est son mari, c'est Dieu qui a élevé son mari et par conséquent l'a élevé aussi. Elle devait comprendre cela, mais elle l'a rejeté. La source de sa bénédiction, de sa position, elle l'a méprisé. Elle a méprisé David, mais en réalité, c'est Dieu qui l'a méprisé ici. Et on dit bien, elle n'a pas eu d'enfant jusqu'à sa mort. Et j'avais dit tout à l'heure, au verset 22, c'est vraiment l'attitude que le Seigneur nous invite à avoir lorsque nous sommes dans sa présence. Que notre dignité, même si qui nous sommes dans la société, peut-être devant les jeunes qui nous sommes, nous devons oublier cela, bien-aimés. Nous devons oublier cela. Parce que qui sommes-nous à la fin? Un jour, nous allons quitter ce monde, bien-aimés. Nous allons quitter ce monde. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Dieu nous a donné la capacité, nous pouvons marcher. On s'est levés tous ce matin. Peut-être qu'on a la possibilité de manger. On s'est déplacé, on utilise nos jambes. Il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité d'être là, même des chrétiens qui sont, sur le lit des hôpitaux. Hein. Il y a même des chrétiens qui sont cloués à la maison, sur le lit des hôpitaux. Toi et moi, nous sommes là. Est-ce que ce n'est pas une grâce que le Seigneur nous accorde pour faire comme David l'a fait? N'oublions pas que David était un grand roi. Et il dit, au verset 22, « Je veux paraître, c'est-à-dire je veux être devant les humains, je veux paraître encore plus bas, plus vil, et m'abaisser à mes propres yeux. » Parce que la grande difficulté pour nous, c'est, on le sait, hein, C'est notre orgueil. Tous les humains, ils ont un orgueil en eux, nous le savons. Mais généralement, c'est les qu'en dira-t-on. Ce que les autres vont penser. Toi aussi, tu dois être en nous. Nous aussi, nous devons être en mesure de dire l'orgueil qui est en moi, je dois le tuer, je dois l'abaisser, je dois le réduire à néant. Ça doit être mon objectif. Et lorsque le Seigneur, notre Dieu, voit cette démarche-là de rabaissement volontaire, mais nous savons, nous connaissons tous ce verset qui dit « Mais Dieu fait grâce aux humbles. » Dieu va te faire grâce. Dieu finira par te relever. Dieu finira par te consoler, par essuyer tes larmes, comme il l'a fait pour cette pécheresse qui a été méprisée. Dieu veut le faire, mais il ne demande qu'une chose, mais c'est l'abaissement. Comme l'a manifesté cette dame, comme l'a manifesté David, et nous connaissons la suite de l'histoire de David. Il a été un grand roi. Il a été élevé. Ne méprisons pas la grâce que le Seigneur nous accorde. Et pour finir, on peut lire dans le livre de... On revient dans le livre de Luc. Luc chapitre 8, à partir du verset 15. Donc ce texte que nous allons lire, c'est la parabole du semeur, hein, où le Seigneur parle des quatre terrains. Nous sommes tous des terrains de notre Dieu. Et le Seigneur a travaillé ce terrain-là. Et nous lisons au verset 15, il est dit ceci. Ce qui est tombé, donc c'est le quatrième terrain, qui est le bon terrain. Il dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce passage? Déjà, le Seigneur nous parle de l'état du quatrième terrain, qui est un bon terrain, qui reçoit et qui pratique, qui manifeste le fruit. Mais la deuxième partie, au verset 16, on nous dit « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. » Qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire par là? En réalité, c'est vrai, ce texte, nous l'appliquons à ce qui est fait dans le secret. Non. Ici, l'interprétation, c'est la suite de cette histoire. Tu es un bon terrain. Le Seigneur s'est révélé à toi. La parole de Dieu agit dans ton cœur. La réalité, c'est quoi? Ce qui est dans ton cœur, il est dit ici, hein? On dit, personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent la voient, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert. C'est-à-dire que l'amour que tu as pour ton Dieu, qui est caché dans ton cœur, Dieu va permettre, il va permettre une situation que tu le manifestes. Il dit, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Le Seigneur va nous donner, à nous tous, l'opportunité de révéler ce que nous avons dans le fond de notre cœur. On a vu avec le pharisien, qu'est-ce qu'il a manifesté, mais on a vu l'état de son cœur, rempli d'orgueil. Ce n'était que l'orgueil. Cette pauvre pécheresse qui avait de l'amour, dont la lumière de Dieu a éclairé le cœur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a manifesté cela. Et devant ces hommes qui sont censés représenter Dieu, qui sont censés défendre Dieu, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Donc lorsque tu es en présence de ce Dieu, si tu l'aimes vraiment, manifeste-le, bien-aimé, manifeste-le. Que ce soit à travers la louange, mais aussi à travers ce que nous faisons dans notre vie quotidienne. Le Seigneur attend que nous manifestions la lumière qui a été allumée dans nos cœurs. Comme il est dit, ça doit être manifesté. Et Dieu a besoin d'être élevé, il a besoin d'être glorifié. Que notre Seigneur soit béni. Nous allons prier, bien-aimés, pour que le Seigneur nous accorde la grâce de lui réserver, de réserver à ce Dieu-là un véritable accueil. En ce sens que nous soyons conscients de tout ce qu'il a fait pour nous. Que nous n'agissions pas comme Simon, qui ne se reproche rien, qui reste dans cette position élevée. Que nous soyons plutôt comme cette femme pécheresse, conscient de tout ce que le Seigneur a fait pour elle. Que nous fassions aussi comme David, conscient de ce que Dieu a fait dans sa vie, et il ne l'a pas caché, et en public. Et n'ayons pas honte de Dieu en public, bien-aimés, c'est surtout ça. Et ne contrôlons pas nos gestes, ne nous contrôlons pas. En face de ce Dieu-là, oublions-nous et louons-le de toutes nos forces, de toute notre âme, car nous ne sommes que poussière, nous ne sommes que de passage sur cette terre, c'est ce que la Bible nous déclare. Hein. Donc si nous avons conscience de cela, qu'à tout moment nous pouvons quitter ce monde, nous n'avons pas à nous accrocher à notre dignité, à notre orgueil. Que le Seigneur nous aide. Prions que le Seigneur ouvre nos yeux sur tout ce qu'il a fait pour nous jusqu'aujourd'hui, afin que nous le servions dans la louange, dans l'adoration, sans calcul. Au nom de Jésus. Éternel Dieu notre Père, nous te disons merci. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Et nous te prions, Seigneur, de nous pardonner toutes les fois où nous avons pris une position élevée. Peut-être parce que nous connaissons la parole. Peut-être parce que, Seigneur, nous ne nous reprochons rien. Et que nous restions dans le jugement des autres. Le jugement, alors que nous devons nous confronter à toi, notre Dieu. C'est toi la référence. C'est toi notre référence. Accorde-nous, Seigneur, de ne pas oublier cela, de faire comme cette pécheresse à qui tu as pardonné ses péchés et qui te l'a rendu par ses louanges et par son adoration. Encore merci, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous de l'orgueil. Délivre-nous également, Seigneur, de la considération de notre dignité, de notre position, Seigneur. Fais-nous grâce. Et encore merci, notre Dieu. À toi seul soit la gloire pour l'éternité. Nous allons aussi enfin prier pour que le Seigneur nous accorde la grâce de ne pas mépriser certaines personnes. Refusons cela, Seigneur, bien-aimé, catégoriquement. Lorsque le mépris veut nous gagner, condamnons-le avec fermeté. Parce que nous avions vu avec Jésus, Jésus n'a pas méprisé cette femme. Il s'est laissé approcher. Il a laissé cette femme le toucher. Et à la fin, c'est cette femme qui était au-dessus. Une position plus élevée que la position du pharisien. Demandons à Dieu d'accorder à nos cœurs de manifester de l'amour pour quiconque. Mais le plus vil des pécheurs à nos yeux. Que le Seigneur nous accorde cette grâce au nom de Jésus. Seigneur, notre Dieu, nous te prions, Seigneur, de nous aider à faire comme toi. Tu n'as pas rejeté cette femme. Et nous voyons la leçon que tu as transmise à Simon. Accorde-nous, Seigneur, de refuser le mépris que nous pouvons avoir, l'élévation que nous pouvons avoir, l'orgueil que nous pouvons manifester. Seigneur, si tu as agi de la sorte envers nous, donne-nous d'agir de la même façon vis-à-vis des personnes qui attendent de nous, Seigneur, ta lumière. Et encore merci, notre Dieu. Seigneur, souviens-toi de nous. Que ta bénédiction soit sur mes frères, sur mes sœurs. Et accorde-nous une santé, une semaine de paix et de joie. Et je détruis, Seigneur, tous les projets du diable contre nous durant cette semaine. Et accorde-nous, Seigneur, de vivre pleinement dans ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.